Seigneur, acclamons très fort le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Priez vous rasseoir. Nous allons nous préparer donc à recevoir sa parole après ce moment merveilleux qu'il nous a accordé, moment qui nous ont permis de nous approcher de lui avec reconnaissance, mais aussi avec révérence, moment qui nous ont permis de lui exprimer nos chants, nos cantiques, moments qui nous ont permis de l'adorer en esprit et en vérité. Avec reconnaissance, Seigneur, nous te disons merci. Pour nous avoir accueillis dans ta présence, mais aussi pour avoir, Seigneur, accueilli nos chants, nos cantiques, l'expression de nos cœurs. Oh, merci de nous aimer autant et de nous donner toutes ces occasions pour pouvoir nous améliorer, car c'est dans ta présence et dans ta présence seule, Seigneur, que nous pouvons expérimenter le changement, la transformation. Seigneur, c'est dans ta présence et dans ta présence seule, ô Dieu, que tu accomplis ton travail, Seigneur, de divin potier. Tu nous façonnes, tu nous modèles, tu nous émondes, tu enlèves tout ce qu'il faut enlever. Tout cela dans le but, Seigneur, de nous faire ressembler au modèle parfait, ce modèle qui est à ta droite, en savoir notre Sauveur et Seigneur bien-aimé, ton Fils Jésus-Christ. Oui, merci pour tout. Nous voulons demeurer dans ta présence et recevoir ta parole depuis ta présence. Que cette parole trouve des cœurs bien disposés, non seulement à la recevoir, mais aussi à la mettre en pratique. Parle-nous. Pose ta main sur ton serviteur et donne-lui de servir ta parole, de te servir toi, mais aussi de servir ton Église, Seigneur, en lui apportant cette nourriture qui nous vient tout droit d'en haut. Tu vois combien ce thème dont il va être question est important. Et nous voulons que par ton esprit, tu nous aides, Seigneur, à approfondir ce thème, car tu attends de chacun de nous que nous puissions avoir cette capacité, Seigneur, de voir l'invisible, d'avoir, Seigneur, cette capacité, ô Dieu, de prendre conscience des réalités spirituelles qui nous environnent. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre, Seigneur, l'être humain, quel qu'il soit. Mais nous avons à lutter contre les pouvoirs des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre, Seigneur, la junte, l'armée des ténèbres, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et tu nous appelles à lui résister, Seigneur, avec une foi ferme, non seulement à lui résister, mais aussi à le mettre en déroute, Seigneur, en utilisant les armes que tu as mises à notre disposition. Mais comment les utiliser? Comment utiliser, Seigneur, l'épée de l'Esprit qui est, ô Dieu, ta parole? Comment prier en esprit et avec toutes sortes de prières si nous ne sommes pas mus, conduits, remplis, Seigneur, de la foi qui nous vient de toi? Alors apprends-nous encore aujourd'hui, Seigneur, donne-nous encore des vérités en rapport avec ce concept ô combien vital qu'est la foi. Merci, Maître. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bon appétit. Gloire à Dieu. Nous allons donc continuer avec notre thème, à savoir comment voir l'invisible. Nous avons passé beaucoup de temps à faire une sorte d'état des lieux de cette vérité ô combien importante concernant les réalités spirituelles qui nous environnent. Nous n'avons vu que nous n'étions pas seuls sur cette terre et qu'il y avait tout autour de nous, eh bien, tout un monde avec ses réalités, tout un monde vivant. Mes amis, tout un monde infesté de puissances démoniaques qui sont nos véritables adversaires. Mais en même temps, nous appartenons au royaume de Dieu qui est une réalité. Ce n'est pas un simple concept philosophique, théologique ou intellectuel. C'est une réalité. Nous faisons partie du royaume de Dieu depuis le jour où nous avons reçu le Seigneur après nous être repentis. Depuis le jour où Jésus est venu en nous, où nous sommes passés de la mort à la vie. Depuis le jour où nous avons expérimenté, mes amis, la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance nous a introduits dans le monde de Dieu, c'est-à-dire dans son royaume. Et les deux royaumes s'affrontent. Alléluia. Il est donc important que nous en soyons pleinement conscients, que nous ayons cette capacité, par le Saint-Esprit, à voir ce qui est au-delà du visible. Car au-delà du terrestre, il y a le céleste. Au-delà du visible, il y a l'invisible. Alléluia. Et donc des choses qui échappent à nos sens naturels, que nous ne pouvons voir, que nous ne pouvons appréhender, que si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, le Saint-Esprit ouvrir nos yeux. Et c'est là que depuis, nous avons essayé de répondre à cette question, comment voir l'invisible? Et là, nous avons souligné deux vérités essentielles, à savoir la foi, mais aussi le renoncement de soi. Oh, alléluia. Nous prendrons beaucoup de temps pour parler du renoncement, car c'est une vérité qui malheureusement est négligée. Alors que le Seigneur a dit que si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche derrière moi. Alléluia. Nous aimons la prospérité, nous aimons les bénédictions matérielles et tout ça, mais toutes ces bénédictions sont rien par rapport à la véritable bénédiction qui consiste à renoncer à soi. Comment voir l'invisible? Troisième chapitre. Nous allons lire dans Luc chapitre 17. Luc 17, versets 5 à 10. Je pensais commencer avec l'autre vérité, à savoir le renoncement. Mais, finalement, dans la prière et tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à voir quant à la foi, car le but, ce n'est pas tant de couvrir la matière. C'est-à-dire, voilà, je dis, bon, je parle de la foi, et puis demain, je parle de ceci. Le but, c'est que vous et moi, nous puissions comprendre ce que la Bible entend par la foi. Alléluia. Que nous puissions savoir comment nous pouvons grandir dans la foi. Car, in fine, c'est la foi qui détermine tout ce que nous sommes véritablement aux yeux de Dieu. À partir du verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras. » Et tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait
tout ce qui vous a été ordonné. Dites, nous sommes des serviteurs, ou littéralement, nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire.
Amen.
Nous avions fait ce que nous devions faire.
Comment voir l'invisible? Deux vérités essentielles pour nous permettre
de comprendre
et de savoir quel chemin prendre
pour qu'enfin
nous puissions développer cette capacité à voir l'invisible, cette capacité à aller au-delà du terrestre. Nous sommes inspirés de la vie de deux héros de la foi biblique, deux personnages importants, mes amis, de la révélation biblique. Un dans l'Ancien Testament, à savoir Moïse, et puis l'autre dans le Nouveau Testament, à savoir l'apôtre Paul. Eh bien, ces deux vérités essentielles, c'est-à-dire la foi, la véritable foi, qui n'a rien à voir avec toutes sortes de présomptions, toutes sortes de croyances intellectuelles. Deux vérités essentielles, la foi, mais aussi le renoncement, ont habité Moïse et Paul. Et ces deux vérités leur ont permis de voir l'invisible. Ces deux vérités ont fini par développer en eux, mes amis, cette capacité extraordinaire, cette capacité surnaturelle de voir au-delà du visible,
d'être pleinement conscient des réalités spirituelles qui nous environnent, des réalités invisibles
autour d'eux. Et gloire à Dieu.
Ces deux vérités constituent deux véritables piliers, mes amis, dans la vie de ces deux serviteurs de Dieu, Moïse et Paul, la foi et le renoncement de soi.
Et depuis quelque temps, nous parlons de la foi. Et je voudrais encore m'attarder aujourd'hui, mais aussi le dimanche prochain, sur la foi. La foi en Dieu, la foi de Dieu, et voir comment cette foi peut grandir, comment cette foi peut croître. Alléluia. La foi en Dieu, la foi de Dieu, nous allons voir la différence. Comment la faire croître? Le quelques dimanches qui nous ont permis d'exploiter ces thèmes, comment voir l'invisible, nous ont permis de faire une sorte d'état de lieu concernant l'importance, concernant la nécessité, mes amis, de comprendre ce qu'est la foi, de comprendre ce que la Bible entend par la foi. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses qui sont enseignés, qui sont communiqués sur la foi. Mais dans la plupart des cas, alors que ces choses ont l'apparence de la vérité, au fond, ces choses ne contribuent pas à faire naître en nous la foi, mais aussi à lui permettre de grandir, à lui permettre de croître. Oui, nous trouvons dans la parole de Dieu beaucoup de passages, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Beaucoup de passages, nous en avons examiné quelques-uns, qui mettent en exergue, qui mettent en évidence l'importance et la nécessité de la foi. Nous la trouvons au début, je me permets de vous le rappeler, au début de notre expérience chrétienne, au début de notre marche avec Dieu, il y a la foi. Car il n'y a pas de salut sans la foi. La Bible est formelle, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi dans la personne du Christ, mais aussi dans l'œuvre unique, singulière, glorieuse qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc nous nous reposons entièrement sur la personne du Christ. Nous croyons tout ce que la Bible dit concernant le Christ. Et en même temps, nous nous appuyons sur ce qu'il a accompli à la croix, sa mort. Et puis, plus tard, sa résurrection. Oui, au début de l'expérience chrétienne, il y a la foi.
Et quand nous entrons dans cette nouvelle vie, après le salut, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Mais comment marcher avec Dieu? Mes amis, si nous n'avons pas de foi, et là aussi la foi va nous permettre de marcher avec Dieu, de lui être agréable. Dieu n'est pas une force impersonnelle. Dieu est une personne. Il est notre Père en Jésus-Christ. Alléluia. Et il attend de nous que nous menions une vie qui l'agrée. En d'autres mots, il attend de chacun de nous que nous puissions lui être agréable. Alléluia. Mais comment lui être agréable sans la foi? Voyez-vous? C'est donc la foi qui va nous permettre de mener une vie que lui agrée. Alléluia. Nous trouvons également des passages, toujours en rapport avec la foi, qui nous montrent comment nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu au quotidien, la puissance de Dieu dans nos besoins, quels qu'ils soient. Voyez-vous, à travers la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous voyons des gens qui, grâce à la foi, expérimentaient la puissance de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et Hébreux 11 en est une très belle illustration. Voyez-vous, il est question des héros de la foi de l'Ancien Testament. Ces hommes et ces femmes, eh bien, par leur foi inébranlable, leur confiance absolue dans le Seigneur, ont expérimenté la grandeur inégalée du Dieu de la Bible. Alléluia. Ils ont expérimenté une démonstration de puissance inimaginable. Voyez-vous, ils ont expérimenté la guérison. Ils ont vu Dieu les délivrer d'une manière ou d'une autre. Ils ont vu Dieu ouvrir le ciel et faire descendre des bénédictions sur eux. Rien n'a pu les arrêter. Voyez-vous, ils ont mis en déroute des armées entières. Ils ont fait descendre la puissance de Dieu ici-bas, le règne de Dieu. Voyez, Dieu a honoré la foi de ces gens-là dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et ce Dieu qui a honoré donc la foi de ces héros est encore le même aujourd'hui. Il a été à l'œuvre dans le Nouveau Testament. Et laissez-moi vous dire une chose. Les apôtres ne sont pas partis avec cette foi-là. Cette foi est intimement liée à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, ce Dieu-là est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et à travers les évangiles, nous pouvons voir combien de gens de tous bords ont pu expérimenter la gloire de Dieu, ont pu vivre des miracles en s'approchant du Seigneur, en recevant sa parole, en croyant en lui. On voit des gens sauvés, être sauvés. On voit des paralytiques marcher en mettant leur foi dans la parole et dans la personne du Christ. On voit des aveugles recouvrer la vue. On voit des morts ressuscités, ramenés à la vie. Des possédés, des gens qui étaient possédés, habités par des démons, être délivrés et retrouver une vie normale. Des gens qui étaient prisonniers, qui étaient sous l'emprise satanique, quitter, mes amis, ce monde des ténèbres en expérimentant la délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Puisque Jésus est le même encore aujourd'hui, nous pouvons nous aussi expérimenter les mêmes choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je voudrais que Dieu nous aide à croire sa parole, à croire Dieu et à croire en Dieu, à croire que tout ce que la Bible dit est vrai. Si Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps », eh bien cela est vrai. Ça veut dire qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous ce matin, eh bien je peux lui apporter mon besoin. Et je peux m'attendre à ce qu'il rencontre mon besoin. C'est ça, mes amis, avoir confiance, croire la parole de Dieu. Alléluia. Expérimenter toutes ces grandes choses. Mais c'est la foi qui va nous permettre de les expérimenter. Vous comprenez pourquoi la Bible nous adresse cette exhortation que nous trouvons, cette invitation que nous trouvons dans Hébreux 10, où il est dit, versets 19 à 22, Approchons-nous donc du Seigneur avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi ou avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. Tout ce dont nous avons besoin se trouve auprès du Seigneur, de ce Dieu invisible. Il y a tant de grâces et nous voulons que ces grâces deviennent des réalités palpables dans notre vie. Oh, alléluia. Cela est possible. Puisque la foi est indispensable, puisque par la foi, l'impossible devient possible, par la foi, eh bien, les miracles deviennent possibles, nous comprenons alors pourquoi, dans ce passage que nous avons lu, les apôtres ont adressé au Seigneur cette prière. Au verset 5, ils dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils l'ont observé. Ils ont vu comment il a accompli des miracles. Comment sa prédication était accompagnée d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il ordonnait aux démons et les démons partaient. Il ordonnait à la maladie et la maladie partait. Il ordonnait à la vie de revenir dans un corps mort et la vie revenait. Il suffisait qu'il dise un mot pour que les choses s'accomplissent. Alléluia. Eh bien, c'est Jésus est le même. Il est en nous. Il est avec nous. Il est parmi nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui dire, Seigneur, merci d'être avec nous? Seigneur, augmente-nous la foi. Les gens qui adressent cette prière n'étaient pas n'importe qui, hein. C'était donc des apôtres, des gens qu'il avait choisis parmi ses disciples pour être avec lui, pour les enseigner, pour les préparer à reprendre le flambeau quand lui partirait. Voyez, ces gens qui lui adressent cette prière avaient déjà cru en lui. Ils avaient cru, ils avaient compris que c'était lui le Messie promis. Alléluia. Que la religion était vaine, nulle, incapable de sauver l'homme. Ils avaient compris. Ils avaient tourné le dos au judaïsme pour embrasser non pas une nouvelle religion, mais plutôt embrasser une personne. Ils avaient cru en lui. Ils avaient compris que lui, Jésus-Christ de Nazareth, était le sauveur de l'humanité. C'était lui, le Messie promis. Et en croyant en lui, ils ont été sauvés déjà. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Puisque le Seigneur va même lire, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est, et donc Dieu est devenu leur Père. Si Dieu était devenu leur Père, c'est qu'il lui appartenait désormais, de par la foi qu'ils avaient placée dans la personne de son Fils. En d'autres mots, ils étaient sauvés, hein. Voyez-vous, Dieu était devenu leur Père. Le Seigneur leur avait donné le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? De guérir les malades, de chasser les démons. Bref, ils avaient cette foi-là. Quand ils regardaient Jésus, ils se disaient, c'est lui le Fils du Dieu vivant. Celui dont Moïse en parlait, dont les prophètes ont parlé. Et nous avons cru que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Celui le Sauveur de l'humanité. Mais là, ils adressent cette prière. Seigneur, augmente-nous la foi. De quelle foi s'agit-il? Voilà la question que nous devons nous poser. La réponse du Seigneur commence par un constat. Qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous aviez de la foi, ah, si vous aviez de la foi, en français c'est une phrase conditionnelle. Vous avez étudié ça, hein? La protase, et puis la principale, l'apodose, enfin, Je vous ramène un peu à votre cours de grammaire. Et donc, la phrase conditionnelle. Si vous aviez, si vous dites à quelqu'un, si tu étais intelligent, tu aurais réussi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est intelligent? Ah. C'est une conditionnelle. Et puis, il y a la principale. Vous diriez, si vous aviez cette foi, comme un grain de moutarde, il quantifie même cette foi-là. Non pas comme une mangue, une grosse mangue, hein. Je connais quelqu'un qui aime beaucoup les mangues, hein. Et voilà. Ou une papaye. Non. Comme un grain de moutarde. Et donc, il quantifie cette foi-là. Si vous aviez cette foi-là, de cette quantité-là, eh bien, vous diriez à ce mûrier, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer et vous verrez la chose s'accomplir. Donc, cette foi, quand on la proclame, eh bien, les résultats sont encore invisibles. Oui ou non? Je m'adresse à un arbre. Il faut avoir beaucoup de foi, hein, pour parler à un arbre, hein. Il faut avoir beaucoup de foi pour parler à une montagne, hein. Il faut avoir beaucoup de foi, mes amis, pour parler à la tempête, comme le Seigneur l'a fait, hein. Là, mer de Galilée, alors qu'il était dans cette barque avec ses disciples, et tout d'un coup la tempête se lève, une bourrasque se met à souffler, et puis ça soulève des vagues qui se jettent contre la barque, la barque commence à tanguer, c'est la panique à bord. Ils vont le réveiller. Et quand il se réveille, d'abord il les reprend. Et puis ensuite, il s'adresse au vent. Il dit quoi? Calmez-vous! Et le vent obéit. Faut beaucoup de foi, hein, pour s'adresser à un problème en disant, problème! Je ne veux plus te voir dans ma vie. Voyez? Quelqu'un qui vit par la foi peut être perçu comme quelqu'un qui est un peu dérangé. Alléluia. Il faut beaucoup d'audace, puisque Dieu peut nous donner des instructions en rapport avec cette foi. Donc, si vous aviez de la foi, vous diriez à ce mûrier. Nous voyons donc que le Seigneur montre par là, ou du moins la parole de Dieu, que les apôtres demandent un type de foi qu'ils n'avaient pas. Alléluia. Vous me suivez? Donc, un type de foi qu'ils n'avaient pas. Alors nous allons examiner un peu plus en profondeur cette foi-là. D'abord, ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas la foi du salut. Car la foi du salut n'est pas quantifiable. On ne peut pas avoir une grande foi pour avoir un grand salut, ou avoir une petite foi pour avoir un petit salut. Non, on est sauvé une fois pour toutes. Point barre. Comme dirait l'autre. Voilà. En ce qui concerne le salut, on ne peut pas être plus sauvé ou alors moins sauvé. On est, c'est tout, par la foi. Et donc ça nous montre que cette foi qu'il demande n'a rien à voir avec la foi du salut. Voyez-vous? Car dans le salut, eh bien, il n'y a pas de degré de foi. Ah non, j'ai une grande foi pour avoir un grand salut. Ou ma foi, c'est une petite foi, je suis moins sauvé que mon pasteur. Non, pas du tout. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est tout. Voilà ce qu'elle n'est pas. Donc elle n'a rien à voir avec la foi du salut qui, elle, n'est pas quantifiable. Elle ne peut pas être petite ou elle ne peut pas être grande. Alors de quelle foi s'agit-il? Eh bien, d'abord, par rapport à cette foi, Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, la première leçon, c'est que cette foi est quantifiable. Elle peut être grande, tout comme elle peut être petite. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, elle est quantifiable. Elle peut être grande ou petite. Voyez? Eh oui. Je pense à cette expérience qu'ont faite les apôtres, les disciples, dans Matthieu 17. Après l'expérience de la transfiguration, le Seigneur descend de la montagne et il y avait une foule. Il arrive près de la foule et là un homme vient se jeter à genoux aux pieds du Seigneur en le suppliant. Verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est donc lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Faut savoir que le lunatique, c'était une maladie qui dépendait des différentes phases de la lune. Voilà. Mais derrière tout ça, il y avait un... lui ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait un démon qui faisait s'ouvrir son fils selon les différentes phases de la lune. Parce que la même lune n'avait pas d'influence. Le cours de la lune n'avait pas d'influence sur les uns. Mais son enfant était lunatique. Donc, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et il continue, verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez maintenant la réaction du Seigneur. Il se tourne vers ses disciples. Il leur dit ceci, race incrédule et perverse. Oh, c'était des mots durs. Hein? Non, aujourd'hui, on serait dit, oh Seigneur, tu manques d'amour. Voyez? C'était des gens qui étaient avec lui depuis un certain temps. Ils étaient déjà censés être arrivés dans leur marche avec le Seigneur à ce type de foi-là. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. On amène l'enfant, et au verset 18, Jésus menaça le démon. Ah. Et donc, derrière ce lunatisme-là, il y avait une possession démoniaque. Il y avait un esprit impur qui tourmentait cet enfant-là, qui l'amenait à se jeter dans le feu pour sa destruction, ou à se jeter dans l'eau pour sa mort. Voyez? Et Jésus avait discerné que c'était pas simplement une pathologie, une maladie, même psychiatrique. Non. Il avait vu que derrière cette maladie, eh ben, il y avait un démon. Il menace le démon. Et le démon sort. Oh, alléluia. Il sort du garçon. Et la Bible nous dit, celui-ci fut guéri à l'heure même. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Quelle foi, mes amis. Quelle démonstration de puissance. Voyez-vous? Alors les disciples, évidemment, sont surpris. Parce qu'eux aussi avaient invoqué le nom du Seigneur. Eux aussi avaient essayé de chasser le démon, de guérir le jeune homme, mais rien à faire. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus lui dire en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Écoutez la réponse du Seigneur, « C'est à cause de votre petite... » Ah. Donc nous voyons que cette foi-là, elle est quantifiable. Elle peut être grande, elle peut être petite. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Voyez, à cause de votre petite foi, et il ajoutera, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et donc, ils avaient prié. Ils avaient invoqué le nom du Seigneur. Ils avaient cru. Allez, au nom de Jésus, sort. Et l'on commogotait.
Jusqu'à ce que lui-même, le Seigneur de gloire, et là, il leur dit, vous avez une petite foi.
Vous voyez? Voilà la foi. Le type de foi qu'ils ont demandé au Seigneur. Augmente-nous la foi. Deuxièmement, cette foi, eh bien, c'est la foi qui rend possible le miracle. Vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et le mûrier et cet arbre vous obéiraient. C'est donc cette foi, mes amis, qui rend possible le miracle, qui rend possible l'impossible. Voyez? Ordonnez à une situation de cesser. Ordonnez au vent de ne plus souffler. Voyez? C'est donc la foi qui conduit un miracle. Dans Matthieu 11, plutôt Marc 11, vous connaissez cette histoire du figuier maudit? Là aussi, il va prononcer une parole au verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit, il dit à qui? À l'arbre, au figuier, hein? Ah, qu'est-ce qu'il dit au figuier? Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Les disciples l'entendent. À un moment, je peux m'imaginer Pierre qui regarde Jean et dit, Loconin, vous avez vu le maître, il a parlé à l'arbre. Pauvre arbre. Voyez? Et puis, le lendemain, au verset 20, hein, pour ne pas lire, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc, le miracle a eu lieu. Quelle démonstration de puissance. Vous avez un figuier avec des feuilles. Il prononce un mot. Et après, le figuier, eh bien, sèche. Jusqu'aux racines. Alors le verset 21 nous dit, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, il profite de l'occasion, c'est Pierre qui parle, mais il saisit l'occasion pour leur donner une leçon en ce qui concerne cette foi. Il prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera. Qui a dit cette parole? Et lui s'appelle comment? La vérité. Et puis il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, s'adresse à ce problème, s'adresse à ceci, et dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, le doute, l'incrédulité, un monstre que nous devons achever dans notre vie. Mais s'il croit que ce qu'il a dit arrive, eh bien le Seigneur dit, cela lui sera accordé. Et le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera. Tout ce que vous demanderez en croyez. Vous voyez, la foi, la vraie prière, la prière efficace, elle est soutenue par la foi. Oh, alléluia. Alors, je reviens au verset 22. Il prit la parole et leur dit, ayez foi en... Voilà. C'est là que j'aime la traduction littérale. En grec,
Écoutez ce que Jésus dit. Voilà. Ah oui. Ayez foi en Dieu. Eh bien, littéralement, ayez la foi de Dieu. C'est ce qu'on trouve à cet endroit. Ayez la foi de Dieu. Et donc, la foi de Dieu, il a Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Il le voit. Et par la capacité qu'il a, en d'autres mots, par la foi, il appelle ces choses-là à l'existence et ces choses viennent à l'existence. Alors, troisièmement, à partir de Marc 11, verset 22, ayez foi, la foi de Dieu, nous voyons que le Seigneur objective cette foi. Voyez? C'est donc une réalité objective que nous pouvons recevoir, alléluia, recevoir la foi de Dieu qui va nous permettre de voir l'invisible. Oh, alléluia! C'est donc avec cette foi-là que nous pouvons voir l'invisible. En considérant tout ce que je viens de dire avant de terminer, puisque nous continuerons la semaine prochaine, nous voyons que la foi dont il est question dans ce passage de Luc 17, eh bien, c'est cette foi qui nous fait entrer dans l'univers des miracles, dans l'univers du surnaturel. Cet univers qui nous paraît invisible, mais grâce à cette foi-là, eh bien, nous pouvons voir et évoluer dans cet univers invisible, alléluia, l'univers du surnaturel, l'univers des miracles. C'est la foi qui nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu dans nos besoins. C'est donc cette foi qui déclenche les lois du royaume de Dieu, nous permettant ainsi d'expérimenter le règne de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous permettant enfin de voir l'invisible. Que voilà, derrière ce problème, il y a la main impie du diable. Et donc, je m'attaque à la cause, non pas aux effets. Alléluia. Donc, cette foi-là, c'est elle qui va rendre possible, qui va faire descendre le ciel sur terre. Pour ceux qui viennent le vendredi, on a parlé de l'onction royale en rapport avec notre vocation. Nous ne sommes pas seulement des sacrificateurs pour Dieu notre Père, de par notre position en Christ, mais la Bible nous dit, nous sommes aussi un sacerdoce royal. Il y a donc une onction royale sur nous. Si en tant que sacrificateurs, nous partons de la terre vers le ciel, en louant le Seigneur, en le bénissant, en lui rendant grâce, en lui exprimant nos sentiments d'une manière ou d'une autre, ça part de notre cœur et ça monte vers lui, n'est-ce pas? Eh bien, en tant que sacerdoce royal, nous sommes appelés à faire descendre le ciel sur terre. Il y a une onction royale sur nous. C'est ce que Jésus a dit dans la prière dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Il a décrété la volonté de Dieu dans toutes sortes de situations. Par rapport aux gens qui étaient possédés, eh bien, il a décrété la volonté de Dieu de voir ces gens-là être libérés de l'emprise démoniaque. Les malades, il a décrété la volonté de Dieu. Il a décrété la guérison. Il n'a pas suggéré. Non, il a dit qu'il en soit ainsi. Et les choses se sont accomplies. Alléluia. Et donc, faire descendre le ciel sur terre en décrétant la volonté de Dieu, puisque nous sommes appelés à régner dans la vie par le Seigneur Jésus, à régner dans la vie, à régner sur les circonstances, eh bien, c'est cette foi-là qui va nous permettre de faire descendre le ciel sur terre. Et quand le ciel descend, ce que nous appelons le règne de Dieu qui se manifeste, alors les solutions sont trouvées à n'importe quel problème. Quand le ciel se manifeste, les montagnes se déplacent. Quand le ciel se manifeste, eh bien, tout devient possible.
la maladie s'en va. Quand le ciel se manifeste, eh bien, mes amis, l'emprise démoniaque sur nous est brisée et nous commençons une nouvelle vie. Seigneur, augmente-nous la foi. Et j'aimerais que nous fassions cette prière aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier, chacun pour sa part. Que chacun demande, Seigneur, augmente en moi cette foi dont j'ai besoin. Et nous verrons. Quand ils ont demandé cela, le Seigneur ne leur a pas donné une recette miracle. Il leur a pas dit, vous jeûnez pendant 40 jours, vous dormez par terre pendant 10 jours, vous confessez le chapitre de Jérémie 8, le verset 3, et puis après vous verrez le miracle. Non. Il n'a pas donné de recette puisque la recette n'existe pas. Mais il va répondre à leur prière par cet enseignement que nous verrons la fois prochaine. Mais en attendant, demandons au Seigneur de nous augmenter cette foi. Cette foi qui va nous faire entrer dans l'univers de miracles qui va nous permettre de voir l'invisible. Prions tous ensemble. Que chacun parle au Seigneur. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Parlons, parle à Dieu. Dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Je voudrais entrer dans l'univers des miracles. Je voudrais voir l'invisible. Donne-moi cette foi. Qu'elle naisse en moi. Qu'elle grandisse pour me permettre de voir au-delà du visible. D'expérimenter les miracles. Seigneur, comme les apôtres, ce matin nous nous tenons devant toi et nous te prions, Seigneur, d'augmenter notre foi, cette foi dont nous avons besoin pour pouvoir vivre et expérimenter les miracles dans nos besoins, quels qu'ils soient, cette foi dont nous avons besoin pour, Seigneur, expérimenter ton règne dans nos vies, ton règne autour de nous, cette foi qui va nous amener à régner dans la vie par toi, à régner sur les circonstances et non pas à subir les circonstances et non pas à subir la vie. Oui, nous avons besoin de cette foi. Augmente-la, suscite-la en nous, Seigneur. Que cette foi nous fasse entrer, oh Dieu, dans cet univers où rien n'est impossible, dans cet univers où tout est possible, car dans ton univers, Seigneur, ta parole est créatrice. Dans ton univers, nous proclamons et nous voyons les choses se réaliser comme nous l'aurons décrété, puisque nous l'aurons fait selon ta volonté. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Aide-nous à rester attachés à toi, Seigneur, pour expérimenter cette foi. Et puis ensuite, à marcher par ton esprit, à nous laisser conduire par ton esprit, à manger régulièrement ta parole, à être actif, Seigneur, dans ta maison. Alors seulement cette foi naîtra. Alors seulement cette foi croîtra en nous et nous rendra capable de transformer l'impossible en possible. Et nous rendra capable de voir l'invisible. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, après ce moment de prière, te recommander, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes et notre soutien financier par rapport, Seigneur, à la construction du nouveau temple. Merci pour la grâce que nous avons de pouvoir contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre ici à la borne et à travers la borne. Bénis et sanctifie, Seigneur, toutes ces personnes qui donnent, mais également ceux qui ne peuvent pas donner pour des raisons que toi tu connais. Et je prie pour que tu donnes du travail à ceux qui en cherchent, car tu es capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Une raison de plus de nous donner cette foi qui ouvre les portes. Seigneur, merci. Merci pour tout. Amen. Veuillez vous rasseoir.